Chapitre 9. Juillet 1987. Adrien, tu crois que j'ai mes règles parce que ma mère est une pute?
Ben non, Mère Teresa, elle a eu ses règles à 10 ans. Comme toi.
Mère Teresa?
Oui.
T'es sûre?
Oui, je l'ai lu dans un Science et Vie.
Étienne et Adrien encadrent Nina, tandis qu'ils se dirigent vers le cabinet médical. Ils ne se sont pas revus depuis la veille à la piscine, quand Nina est partie comme une balle sans rien leur dire. Les garçons sont sur leur skate, Nina à pied, ils roulent au rythme de ses pas. Depuis la piscine, le sang n'arrête pas de couler. Elle a pris rendez-vous chez le docteur Lecoq sans travestir sa voix. Un vrai rendez-vous à son nom. Nina Beau. Là-bas, on la connaît très bien. Avec son asthme, elle est suivie régulièrement. C'est la première fois qu'elle va voir son médecin de famille seule. D'habitude, son grand-père l'accompagne. Elle a un sentiment de désobéissance qui la met mal à l'aise.
« Tu l'as dit à ton grand-père ?» demande Étienne.
« Non, » répond Nina, agacée.
« Tu peux aller à la piscine ?»«
Ben non. »«
Combien de temps ça dure ?»
s'inquiète Étienne.
« Je sais pas trop, environ 6 jours. »«
Mais allez-y, vous, à la piscine. »«
On te laisse pas toute seule ?»
s'indigne Adrien. Étienne laisse exploser sa joie.
On va louer des vidéos? Le jardinier et Madame Rancœur sont en vacances, on va avoir la maison pour nous tout seuls.
Et ta sœur, on va pas la déranger? S'inquiète Nina.
Jamais là.
Quand ils arrivent tous les trois devant l'établissement médical, Nina demande au garçon de l'attendre un peu plus loin.
Tu veux pas qu'on t'accompagne dans la salle d'attente?
Non, je préfère y aller seule. Juste à côté, il y a le parking d'une jardinerie. Les deux garçons vont rouler et faire des figures sur les lignes de stationnement des camions. Ils prennent de l'élan, font des sauts. Étienne est beaucoup plus doué et téméraire qu'Adrien. Plus rapide aussi. Il semble en lévitation sur sa planche. Tous deux ressemblent à un professeur et son élève, pense Adrien. Un professionnel et un débutant. Étienne a une maîtrise parfaite de son corps. Il est d'une agilité et d'une souplesse innée. Il a encore grandi et fait 2 têtes de plus qu'Adrien. Sur roue, dans l'eau, sur terre, Étienne contrôle l'équilibre et la beauté des gestes. Il faut le voir traverser le grand bassin de la piscine en nageant le crawl. C'est une fatalité qu'Adrien a déjà intégrée. On ne naît pas tous égaux. Des croûtes aux genoux et aux bras, les poignets endoloris par les figures qu'il tente de faire pour imiter Étienne, Adrien fait une pause en rattachant un de ses lacets, quand il sent un regard, comme la lame d'un couteau planté dans son dos. Surpris par le malaise vertigineux qui le traverse, il se retourne et se liquéfie. C'est comme un coup de pied dans l'estomac. Son souffle se coupe. Il est là, à environ 300 mètres de lui. Depuis combien de temps observe-t-il Adrien? Est-ce qu'il l'a suivi? 1/4 seconde et il fait volte-face, referme la portière de sa voiture à toute allure et pénètre à l'intérieur de la jardinerie. C'est comme une impulsion. Quelqu'un qu'il pousserait, comme une violence qu'il ne connaît pas. Peut-être la personne derrière laquelle il semble toujours se cacher. Cette insoutenable timidité, des murs qui tombent. Tout ce que Pi ne lui a pas fait pleurer est en train de sortir de manière totalement désynchronisée. Adrien s'élance, abandonnant son skate sur un muret, n'entendant pas la voix d'Étienne qui lui demande où il va. Il traverse le parking en courant, ouvre la lourde porte du magasin, se la prend dans la figure. Ses gestes sont désordonnés. Son corps ne répond plus. Il a les jambes chargées d'électricité. Une première allée, vide. Une autre, aussi. Adrien cherche Pi comme un chien de meute traque une bête. Il croise un employé qui lui sourit.
« Bonjour, mon garçon. »
Adrien n'entend plus rien. Les battements de son cœur dans les oreilles. Un poisson pris dans des filets. L'odeur de la classe qui remonte. Un mélange de papier, de colle, d'ammoniac, de craie et de sueur. 3e allée. Il est là, soupesant des sacs, choisissant sereinement des graines pour son jardin. Sourire de circonstance qu'il s'est accroché au visage avant de partir de chez lui, comme tous les matins. Adrien le connaît si bien, ce sourire. Il le réveille encore chaque nuit. Pi n'a pas le temps de voir Adrien bondir. Il reçoit le coup en pleine figure. C'est pourtant un petit poing serré. Celui d'un enfant de 11 ans, haut comme 3 pommes. Mais il y a tant de rage dans cette main.
tant de tension et de chagrin que le cou a la puissance d'une balle tirée à bout portant. Les lunettes se brisent et le blessent. Du sang sur le nez. Sa vue se trouble. Puis un coup de pied dans les couilles. D'une violence inouïe. Un vertige. Puis se penche en avant, se recroqueville, tandis qu'Adrien frappe et hurle comme un fou. Un employé le saisit, le retient. Il se débat comme un diable. Puis un autre cri, terrible, désespéré, celui de Nina. « Adrien !» Le visage de Nina déformé par la peur, des larmes dans les yeux, et celui d'Étienne, à côté d'elle, incrédule, la bouche grande ouverte, comme s'il était un demeuré. Une chaleur qui monte dans son corps, des armées de fourmis dans les membres, ses jambes ne le portent plus, et puis plus rien, un voile noir. Adrien reprend connaissance dans une réserve, l'odeur des plantes, de la terre mouillée. Deux agents de ville et trois employés de la jardinerie le regardent. Il perçoit les mots « Monsieur Pi ne portera pas plainte. La mère payera pour les lunettes. Blessure superficielle. Inquiet pour l'enfant. Un médecin va venir. Mais qu'est-ce qui lui a pris ?» Nina est en pleine crise d'asthme. Son souffle est rauque, parfois aigu. Comme un sifflet déglingué dans sa gorge. Étienne observe toujours Adrien, son skate sous le bras, comme s'il ne reconnaissait pas son ami, un étranger étendu près des sacs de terreau. Adrien s'est blessé la main en cassant les lunettes de Pi. Joséphine débarque, affolée. « Où est Pi ?» se demande Adrien, avant de perdre à nouveau connaissance. Depuis quelques jours, comme ils ne peuvent plus aller à la piscine, ils écoutent sono à fond l'album The Joshua Tree de U2 en boucle. Ils dansent et chantent, volets baissés dans le grand séjour de la maison d'Étienne. Comme ils sont dans le noir, ils font n'importe quoi. Leurs gestes sont désaccordés. Ils s'abandonnent à l'obscurité, riant bruyamment comme des enfants de maternelle. With or without you. Ces après-midi de liesse les soignent du coup de folie d'Adrien. Les jours se sont succédés sans qu'ils en parlent. Adrien a vu un médecin qui a cherché à comprendre. Il est resté mutique. Depuis qu'il a 6 ans, il ne fait plus confiance au corps médical. Le jour où Adrien a tabassé Pi, le docteur Lecoq a rassuré Nina. Avoir ses règles à son âge, c'est le cours normal des choses, rien d'affolant. Peut-être 1 ou 2 d'avance par rapport à la moyenne des autres jeunes filles, mais rien de grave. « Vous avez connu ma mère ? » a-t-elle demandé à son médecin. « Oui, bien sûr, » lui a-t-il répondu en promenant son stéthoscope dans son dos. « Elle a eu ses règles à 10 ans ?» Le médecin a farfouillé dans des tiroirs coulissants, en a sorti un dossier au nom de Marion Beau, née le 3 juillet 1958. Il a essayé de déchiffrer ses notes inscrites à l'intérieur. « Désolée, Nina, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me relire. » Le docteur lui a prescrit une prise de sang en lui parlant de taux de progestérone et d'hormones, mais elle ne l'écoutait plus. Elle fixait le dossier médical de sa mère posé sur le bureau. Des dates au stylo rouge, des dates de consultation, comme des preuves de son existence. Marion était entrée dans cette pièce, s'était allongée là. Le coq lui avait pris sa tension, l'avait mesurée, pesée, avait écouté son cœur. À la maison, il n'y avait pas de photo de Marion. Pierre Beau avait fait disparaître toute trace de sa fille. Il ne restait rien d'elle, à part Nina. Le coq a refusé le chèque que Nina lui tendait pour payer la consultation. Elle l'avait subtilisé à Pierre, le dernier de la souche, pour qu'il s'en aperçoive le plus tard possible. Il était inenvisageable de parler de ses règles avec son grand-père. Avant qu'elle quitte le cabinet médical, le médecin lui a tout de même demandé si elle n'avait pas de petit copain. À quoi elle a répondu non en rougissant. « Si ça arrive, il faudra revenir me voir pour que je te prescrive une pilule contraceptive. » Avait-il dit la même chose à sa mère ? Elle est ressortie du cabinet médical dans un état second, imaginant les angines et les fièvres de Marion, ses chutes de vélo, ses ecchymoses et ses maux de ventre. Elle a cherché les garçons sur le parking de la jardinerie, impatiente, pour leur raconter comme quand on revient d'un long voyage. À l'intérieur du magasin, elle a vu Étienne de dos, comme prostré, puis allongé par terre et Adrien cogné comme un fou, donnant des coups de pied défigurés par la rage, rouges comme les groseilles du jardin, les cheveux collés par la transpiration. Nina a eu terriblement peur, quelque chose de l'ordre de l'effroi. On allait lui enlever Adrien, les séparer, comme dans les films qui la faisaient pleurer, ceux où l'on enfermait les délinquants dans des pensionnats cauchemardesques. Adrien allait l'abandonner comme sa mère l'avait fait peu après sa naissance. Elle a hurlé son prénom. Adrien s'est arrêté net. Stupéfait, il a reculé, observé son instituteur allongé sur le sol et perdu connaissance. Les bronches de Nina se sont mises à déconner. Une crise d'une rare violence. Des gens ont accouru. Puis s'est relevé sans regarder personne. With or without you. Ils braillent tous les trois à tue-tête, dansent en fermant les yeux bien que la pièce soit plongée dans l'obscurité. Depuis quelques jours, le parquet du séjour leur sert de piste. Ils mangent des cochonneries, regardent des VHS qu'ils glissent dans le magnétoscope, plusieurs fois de suite quand le film leur plaît, hypnotisés. Nina se met toujours entre Étienne et Adrien. Parfois, Étienne suce son pouce en douce. Ils ont aussi décidé de faire de la musique ensemble, de créer un groupe. Étienne a déjà abandonné le piano. Il préfère le synthétiseur et le micro qu'il a installé dans une partie du sous-sol. Nina et Adrien écriront des paroles de chansons, tandis qu'Étienne cherchera des airs. Ils ont commencé à écrire quelques mots compliqués, alambiqués, anglophones, qui n'ont pas de sens. Ils se veulent originaux, ignorant encore que bien souvent, les chansons les plus belles sont d'une simplicité éclatante. Le 20 juillet, Étienne part à Saint-Raphaël comme chaque année. C'est la première fois qu'ils se séparent depuis qu'ils se connaissent, exception faite du séjour d'Adrien à l'hôpital d'Autun, pendant ce qu'ils appelleront plus tard la pie maladie. Après le départ d'Étienne, Nina et Adrien se retrouvent comme deux âmes en peine à barboter toute la journée dans l'eau chlorée. Entre deux plongeons, ils étendent un drap de bain sur les pelouses jaunies des abords de la piscine, celles situées derrière des barrières de sécurité où on a le droit de manger et fumer. Celle où des ados se roulent des pelles sous leurs yeux incrédules d'enfants de 10 et 11 ans. Nina et Adrien se placent toujours sous le même arbre et tracent des dessins imaginaires dans le ciel qu'ils se font mutuellement deviner. Ils ont un Walkman pour deux, qu'ils se prêtent à tour de rôle. Ils changent de cassette quand ils posent le casque en mousse sur leurs oreilles. Adrien écoute Niagara et Nina Mylène Farmer. « Tu as déjà embrassé quelqu'un ?» demande Nina à Adrien.
« Sur la bouche ?»
Oui.
Avec la langue?
Oui.
T'es folle, j'ai 11 ans. Et toi?
Pareil.
De toute façon, ça a l'air dégueulasse.
Une fin d'après-midi, les yeux rougis par les sous-l'eau et le soleil, Adrien raccompagne Nina chez elle. Ils sont accueillis par ses chats et sa chienne Paola. Pierre Beau fait la sieste. Après sa tournée, avant d'aller à la poste pour rendre ce qu'il n'a pas distribué, il pique toujours un roupillon. Nina demande à Adrien de la suivre dans une pièce aveugle au fond du couloir.
« T'inquiète, mon grand-père dort. Je vais te montrer quelque chose, mais il faut que tu jures sur ma tête que tu le diras à personne, même pas à Étienne. »
Adrien jure. Dans cette pièce, trois pochettes en cuir sont posées sur un ancien établi. Nina ouvre l'une d'entre elles et la retourne. Il fait chaud, il n'y a pas d'air, juste une vague odeur de cire et de poussière. Le contenu se répand. Des dizaines de lettres et de cartes postales où on voit la mer. Des paysages que Nina peut scruter pendant des heures. Et toujours les mêmes mots au dos. Il fait beau, tout va bien, on vous embrasse. Là où il y a la mer, Nina imagine que tout va bien et qu'il fait toujours beau. Je profite de sa sieste pour en chiper quelques-unes. Ça m'arrive d'en lire.
Pourquoi ?
Ben, pour les lire.
Ton grand-père, il sait que tu fais ça. T'es fou, il n'a jamais remarqué.
Je les remets tout de suite à leur place, tu veux essayer ? Adrien a peur de trop bien comprendre.
Essayer quoi ?
Nina prend un tas d'enveloppes et fait un tri. Elle choisit les enveloppes manuscrites. Celles qui s'apparentent à des factures ou du courrier administratif ne l'intéressent pas. Elle en fait un éventail qu'elle tend à Adrien.
Ferme les yeux et prends une lettre au hasard.
Adrien s'exécute. Il en tire une comme s'il s'agissait d'une carte pour un tour de magie. Il sent Nina lui retirer des mains promptement. Quand il rouvre les yeux, elle est déjà derrière la porte.
« On va dans ma chambre !»
Sur sa table de nuit, elle met une petite bouilloire en marche. Quelques secondes après, elle promène l'enveloppe au-dessus de la vapeur que dégage l'eau en ébullition et l'ouvre à la vitesse de la lumière. Elle tend la lettre à Adrien. « Vas-y, lis-la à voix haute. » Adrien a le sentiment d'être au cœur de la plus grande escroquerie de tous les temps. Il se voit déjà en maison de correction, là où les mineurs sont enfermés et tabassés par des types pires que pis. Un délinquant qui non seulement a cassé la gueule à son ancien instituteur, mais lui du courrier volé. Il sent sa respiration et les pulsations de son cœur s'accélérer. Il serre le papier très fort entre ses doigts pour que Nina ne s'aperçoive pas qu'il tremble comme une feuille au vent. Il découvre une écriture fine, nerveuse, à l'encre violette. Il respire profondément avant de commencer sa lecture pour que sa voix ne trahisse pas sa peur. Mes chers enfants, un petit bonjour des Alpes où il fait très beau. Les soirées sont fraîches. Et si par malheur il se met à pleuvoir, nous grelottons. Mais cela reste rare en ce mois de juillet. Mon séjour se passe très bien. Les médecins veulent encore me garder plusieurs semaines au sanatorium. J'espère pouvoir vous retrouver avant la rentrée des classes. J'espère que vous êtes sage avec papa. Mon petit Léo, fais-tu bien tes révisions pour ton orthographe? Ma douce Sibylle, le centre aéré te plaît-il? Est-ce que les monitrices sont gentilles avec toi? Vous me manquez beaucoup, mes anges. Dites à papa que je l'aime de tout mon cœur comme je vous aime et que je vais guérir très vite. Maman. Adrien rend la lettre à Nina qui est suspendue à ses lèvres. Ma mère, elle m'a jamais écrit, dit-elle. Tu sais où elle habite? Non. Tu l'as jamais vue? Si, elle est revenue plusieurs fois, sûrement pour demander de l'argent à mon grand-père. La dernière fois, c'était en 1981, j'avais 5 ans. Tu t'en souviens? Un peu. Elle sentait le patchouli. Comment elle s'appelle? Marion. Elle fait quoi comme travail? Je sais pas. Pourquoi tu dis que c'est une pute? Nina hausse les épaules. Et tu sais qui c'est ton père? Non. Et ton grand-père, il sait? Non, je crois pas. Et toi, ton père, il est comment? Demande Nina. Il est marié à Paris. Et tu le vois? Des fois. Lui, il pue la chlorophylle. Toujours, il mâchouille son chewing-gum dégueulasse. Je déteste cette odeur. Des fois, il vient me chercher pour m'emmener au restaurant. C'est horrible. J'ai rien à lui dire, lui non plus. J'attends le dessert en lui posant des questions que j'ai préparées avant de le voir, pour pas qu'il y ait trop de blanc. Tu crois qu'il a d'autres enfants? Je sais pas. T'as peut-être une sœur ou un frère? Peut-être. Il te l'a jamais dit? Jamais. En bas de l'escalier, la voix grave de Pierre Boraisonne. Nina, qu'est-ce que tu fabriques? Les enfants sursautent. Nina cache l'enveloppe sous son oreiller. Adrien descend saluer le grand-père de son ami, sa planche de skate sous le bras. L'homme solennel lui lance. « Il faut que je te parle à toi. » Adrien est soudain très mal à l'aise. Il pense que Pierre Beau va lui faire la morale après sa violente altercation avec Pi. Adrien le suit jusqu'à la cuisine avec l'air d'un condamné. Peut-être même qu'il va lui demander de ne plus traîner avec sa petite fille. Ce qui serait impensable, inadmissible, impossible. Nina, c'est la lumière d'Adrien. C'est comme une sœur. Et le contraire d'une sœur parce qu'ils se sont choisis. Nina, c'est l'évidence d'Adrien, même si elle utilise les toilettes des garçons et lit du courrier volé. Pierre Beau referme la porte derrière Adrien et le fixe quelques secondes. Nina ne ressemble pas à son grand-père. Le vieux a le regard gris-bleu, un peu comme la couleur du linge que sa mère sort souvent de la machine à laver en braillant « Eh merde, t'as encore des teints !» Sa peau est tannée comme le blouson en cuir que Steve McQueen porte sur un poster dans la chambre d'Adrien. Les tournées à vélo ont bistré sa peau. Il plisse le front en l'observant d'un air grave. Adrien a la bouche sèche. Pour un peu, il se croirait sur l'estrade devant le tableau. Pi et sa classe. J'ai pensé à un cadeau pour l'anniversaire de Nina, mais je voudrais ton avis. Un chevalet et des tubes de peinture. Tu crois que ça lui plairait? Adrien a du mal à répondre. Il ne s'attendait tellement pas à ces mots-là qu'il lui faut du temps pour les assimiler. « Oui. » « Tu en es sûr ?»« Oui, je pense. » « Tu penses ou tu en es sûr ?»
Parce qu'elle ne fait que du noir, je me dis que ce serait bien qu'elle apprenne la couleur avec des pinceaux.